Grand 8, bienvenue, 8h01.
Radio Suisse Romande, le Grand 8.
La chance, ça se construit. Et commencer à avoir des espèces de propos extrêmement généraux sur la diversité, c'est ceci, l'autonomie, c'est cela, ça ne va pas. Il faut rentrer dans un processus de construction politique d'une Europe qui est diverse. On va pas, on n'est pas naïf, la diversité ne change rien en soi. Il faut construire sa chance.
Francesco Panese, c'était hier matin dans Le Grand 8, il répondait à Alain Finkielkraut. Bonjour, ce matin dans Le Grand 8, méfiez-vous des informaticiens. L'affaire HSBC qui provoque de nouvelles tensions entre la Suisse et la France est au fond une affaire de sécurité informatique. La moralité de cette affaire, c'est qu'avec une clé USB, on peut mettre à mal une entreprise et faire rapporter gros à une entreprise concurrente, à un État, à un média. Signe des temps, aujourd'hui la grande majorité des entreprises dépend de son système informatique et donc de ses informaticiens qui ont décidément beaucoup, beaucoup de pouvoir. Solange Guernaut-Tielli, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes prof à HEC Lausanne, experte internationale en sécurité informatique. Le cinéma suisse cartonne. Les films suisses ont réuni en salle cette année 100 000 spectateurs de plus que l'année dernière. Nicolas Bidot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de la section cinéma de l'Office fédéral de la culture. Et outre ces bonnes entrées donc pour le cinéma suisse cette année, l'année 2009 aura été décidément l'année de la 3D au cinéma. Elle marche très fort en Suisse, mettant même, on va en parler tout à l'heure, en danger les salles qui n'ont pas les moyens de s'équiper. Les homos sont des parents comme les autres. C'est ce qu'affirmait Nicole Lamont en signature tout à l'heure dans le journal du matin. Et c'est vrai que d'une part, de plus en plus d'enfants grandissent avec deux mamans ou deux papas. Vrai aussi qu'il n'y a pas de protection particulière pour ces familles en cas de succession, de maladie ou de séparation. Pascal Pellegrino, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste et vous êtes auteur du livre Papa Gay aux éditions Favre, livre témoignage qui relate au fond l'expérience que vous vivez vous au quotidien de père homosexuel avec votre fille qui a aujourd'hui 3 ans. Et puis à propos de famille, il y a une autre tendance qu'on va aborder ce matin dans le Grand 8, l'affirmation du statut des femmes qui restent à la maison pour s'occuper des enfants. À travers des blogs, des prises de position, ces voix émergent aujourd'hui. L'UDC, quant à elle, voudrait que les parents qui gardent leurs enfants eux-mêmes bénéficient aussi de déductions fiscales. Femmes au foyer, donc peut-être une nouvelle tendance. On va en parler en tout cas avec vous, Fabienne Despotes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée UDC au Grand Conseil vaudois. Merci vous aussi d'être avec nous ce matin.
Le Grand 8, Joël Marchetti.
Et donc tout d'abord, méfiez-vous des informaticiens. L'affaire des fichiers informatiques volés chez HSBC, qui provoque de nouvelles tensions entre la Suisse et la France, touche la sécurité informatique. Solange Guernaut-Tielli, au fond, cette affaire montre à quel point aujourd'hui, avec une simple clé USB, voire quelques courriers électroniques, on peut remettre en cause une entreprise, faire rapporter gros à un concurrent, voire même à un État. Il y a une extrême fragilité au fond du système aujourd'hui.
Alors effectivement, vous l'avez dit, la fragilité vient surtout de la dépendance à des systèmes informatiques et à des informations qui sont manipulées bien sûr par des personnes. Mais moi, j'aurais envie de rebondir ce que vous venez de dire. C'est pas un problème pour moi de sécurité informatique, c'est un problème avant tout de politique internationale et peut-être de fragilité du système bancaire tel que nous l'avons conçu. Et la motivation de la personne qui a volé ces informations, quel que soit le moyen, que ce soit par une clé USB ou via Internet, après tout, pourquoi pas, je pense pas que ça soit un problème vraiment de sécurité, mais de motivation des personnes, et ça a exploité une faille humaine, et on peut penser que cette personne a été manipulée, peut-être qu'elle a même été infiltrée dans le système pour pouvoir réaliser ça.
Bon, on peut imaginer que les entreprises pourraient s'inquiéter de savoir que s'il y a des données sensibles, et qu'un informaticien, un employé, mais évidemment, les informaticiens ont un accès privilégiés aux données, peuvent très facilement exporter ces données, les faire sortir de l'entreprise.
Alors absolument, on pourrait craindre effectivement que la confiance accordée peut-être à tort à certaines personnes va pouvoir mettre à mal l'entreprise. Et c'est vrai que la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut peut-être mettre en place des procédures de contrôle du mode de fonctionnement et des procédures utilisées.
Ah, donc vous dites au fond les informaticiens aujourd'hui ont beaucoup, peut-être trop de pouvoir en entreprise. C'est juste un individu. On voit bien là dans l'affaire HSBC.
Tout à fait, c'est une personne comme les autres qui peut être tentée effectivement à peut-être vendre ses informations.
Nicolas Bidot, ça vous fait peur, vous, ce genre de choses-là?
Non, mais je pose une question exemple à la spécialiste. Vous n'avez pas l'impression aussi que c'est une question de formation? C'est-à-dire, j'ai l'impression que dans les entreprises, il y a les seniors qui n'empêchent pas une en informatique, et que les jeunes générations, elles, sont beaucoup mieux formées, et qu'à l'avenir, finalement, la protection se fera de manière individuelle.
Une naïveté. Est-ce qu'il n'y a pas une naïveté, ouais, dans les chefs d'entreprise aujourd'hui?
Peut-être, par méconnaissance, comme vous l'avez mentionné, on peut craindre, effectivement, que la non-connaissance du pouvoir des technologies informatiques et télécoms, n'est pas permis de mettre en place une approche globale de la sécurité qui intègre une bonne gestion des ressources humaines.
Donc il y a ça manque de prise de conscience, par exemple dans les banques, peut-être que les dirigeants manquent encore de prise de conscience.
Je suis pas sûr. Moi, je crois que les banques sont effectivement peut-être les mieux protégées en termes de sensibiliser aux problèmes de sécurité informatique. Ça fait des années qu'elles mettent en place des notions de gouvernance de la sécurité. Peut-être que là, elles ont peut-être un défaut en termes de management des personnes.
Bon, c'est aussi l'impact de l'arrivée de l'informatique quand même ces dernières décennies dans les entreprises qui change fondamentalement la donne. Les subprimes, notamment, certains experts disent que la crise des subprimes a été notamment due à la complexification des produits financiers grâce à l'informatique. Donc, on a vraiment un géant informatique, une capacité énorme qui est là. Là, on parle éventuellement de 130 000, voire 140 000 noms chez HSBC. Évidemment, une clé USB, c'est vite fait. Et pourtant, sans informatique, ce serait carrément impossible.
Oui, mais je crois qu'on est en train de diaboliser l'informatique. Le problème, c'est pas l'informatique, c'est les personnes qui les gèrent, qui les mettent en place, qui les utilisent.
Fabienne Despot, l'informatique, vous, ça, c'est quoi? C'est une crainte? Voyez-vous une crainte autour de ça? Ou pas du tout? Au contraire, aujourd'hui, le système est suffisant?
Je crois que le principal est dans l'état d'esprit des gens et pas tellement dans les moyens. Ça veut dire qu'il faut faire une redondance de contrôle. Il ne faut jamais donner un pouvoir important à une seule personne, ce dont on a l'habitude, par exemple, dans les banques. Si une personne va aller dans un safe, il y aura plusieurs contrôles. Ça va pas dépendre d'une seule personne. Alors, pour l'informatique, c'est simplement la même chose.
C'est vrai que les informaticiens, aujourd'hui, quand même, Solange Garnaouti, concentrent entre leurs mains tout le pouvoir du savoir, de la connaissance des données réunies dans une entreprise.
Elles ont le pouvoir de l'accès à ces données. Peut-être pas de la connaissance, mais elles ont le pouvoir de faire, effectivement. Et quelle que soit la motivation de la personne, on peut avoir des très bonnes procédures. Si la personne est malveillante, elle le sera.
Système fragile aujourd'hui ?
Certainement du fait de la dématérialisation et du potentiel multiplicateur de l'outil informatique.
On voit bien aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'objet aussi de votre livre que vous avez publié dans la collection Le Savoir Suisse, s'appelle La cybercriminalité. Là-dessus, évidemment, que les esprits mal intentionnés ont aujourd'hui un large accès, énormément de pouvoir aussi, pour assez facilement, je reviens à cet exemple de la clé USB, toute simple, ça coûte trois fois rien, et ça peut suffire pour mettre à mal une entreprise.
Absolument, oui.
D'accord. Ça vous fait toujours pas peur ou
non? Mais non, mais vous savez, ma fille qui est en première primaire, ils ont un ordinateur dans leur classe. Je crois qu'à l'avenir, ces gens-là ne perdront plus leur clé USB.
D'accord, tout simplement. La confidentialité des données, c'est possible, ça quand même, de garantir vraiment qu'une donnée en entreprise reste en entreprise. C'est quelque chose, à vrai dire, qui paraît assez difficile à atteindre aujourd'hui.
Effectivement, c'est vrai que même la technologie sécurité ne permet pas de garantir le fait que la donnée ne soit jamais divulguée.
Et affaire HSBC, donc, qui n'a pas fini, on le voit bien avec les dernières nouvelles qui datent de hier, voire même de ce matin, de nouvelles tensions donc entre la Suisse et la France. Messieurs, dames, le cinéma suisse, je vous le disais en titre, cartonne. Les films suisses ont réuni en salle cette année 100 000 spectateurs de plus que l'année dernière. Bonne nouvelle pour vous, Nicolas Bidot. Au fond, c'est quoi un film suisse qui marche? Est-ce qu'on arrive, avec les années, quand même à définir une certaine recette où on voit bien que certains films captent le public?
Oui, bon, tout d'abord, un film qui marche, c'est un film qui fait plus de 10 000 spectateurs, hein, ça me paraît, ça il faut le
ça,
dire.
Ça, c'est le résultat.
Cette année, si on a 100 000 de plus, c'est qu'il y en a 12 qui sont sortis et on en parle à part ça. Je vois la locomotive, c'est une comédie avec Bruno Gann sur la question de l'âge, quand est-ce qu'on est vieux, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on est vieux, et ça, c'est une formule qui fonctionne.
Ça, c'est le top des entrées.
Vous avez un acteur que tout le monde connaît, en tout cas en Suisse allemande, qui touche au quotidien. Le film est fait à Zurich, ça, c'est une formule qui va fonctionner.
L'année 2009, grande tendance, hein, on en avait parlé c'est vrai, au début d'année, c'est l'année de la 3D, ça marche très fort, ça se confirme, beaucoup de salles se sont équipées, à tel point d'ailleurs que les salles qui n'ont pas les moyens de s'équiper peuvent être en danger aujourd'hui.
Oui, absolument. C'est-à-dire que le 3D, on a cru que c'était un truc technologique inventé par les Américains il y a un ou deux ans. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup plus que ça. Ça répond à une attente des spectateurs qui vivent le cinéma comme un événement. On va au cinéma parce qu'il y a une valeur ajoutée technologique. Et aujourd'hui, on voit que chaque film en 3D qui sort cartonne totalement. Le top de l'année, c'est 1 million de spectateurs pour L'Âge de glace 3, qui est un film en 3D. Et les gens y vont pour ça. Il y a des salles qui montent L'Âge de glace qui n'est pas en 3D. Les gens y vont pas. Vevey, Montreux, il était montré, les gens se déplacent jusqu'à Lausanne. Vous voyez que ça attire les gens et qu'effectivement ça pose la question à terme de la diversité de l'œuvre dans toute la Suisse.
Ça veut dire aussi que le cinéma devient événementiel, c'est ça qui marche. C'est-à-dire on crée un événement autour d'un film, le fait d'aller au cinéma devient un événement et non plus un acte banal.
Bon, ben effectivement, vous pouvez symboliser ça entre une sortie entre copains dans un multiplex. Un multiplex, c'est plus de 8 salles dans un complexe. On y va pour voir le film en 3D, boire un coup, discuter. C'est l'événement d'une soirée.
C'est presque une cérémonie avec Solange Garnaouti.
Puis j'ai envie de, aussi de rebondir sur le fait que ça change du home cinéma à la maison, quoi.
Ouais, bon, remarquez, tout de même, à la maison, c'est vrai qu'il y a une sérieuse concurrence qui est en train de s'installer avec les années. On sent ça dans le cinéma aujourd'hui, Nicolas Bidot, cette concurrence du home cinéma.
Oui, on la sent, mais comme l'a très justement dit madame, en même temps, le cinéma a su se réinventer, a su apporter une chose en plus que le salon, et ça a fonctionné. Mais ça pose la question aussi pour le cinéma suisse. Le cinéma suisse n'est jamais montré en 3D, n'est jamais montré dans des multiplex et dans des salles à écran unique. Donc effectivement, il faudra se poser la question de savoir si on ne doit pas garantir une diversité au niveau des salles aussi en Suisse.
En tout cas, la production suisse semble s'adapter puisqu'il y a un projet de film en 3D suisse qui est en développement.
Absolument. Pour la première fois, on a eu en commission il y a deux semaines un projet en 3D. C'était très sympathique. Le producteur avait tourné une petite scène en 3D. On avait tous nos lunettes. On regardait ce que ça allait donner. C'était un film d'horreur, un film de genre. Et effectivement, c'est assez intéressant de voir que la nouvelle génération de producteurs réalisateurs s'inscrit aussi là-dedans. Je retiens aussi cette année.
J'ai pas peur d'un nouveau Max & Co. Je m'excuse juste. Quand la Suisse essaye d'aller dans le sens. Non, mais c'est vrai que la Suisse essaye d'aller dans le sens des grandes tendances actuelles. On voit bien que quand même, il faut avant tout juste une idée géniale pour faire un bon film, ça part de là.
Ça, c'est vrai. Mais vous savez, la 3D, c'est pas très cher, hein. Le principe de tourner en 3D, vous avez deux caméras qui sont à 10 cm l'une de l'autre pour créer la dimension ensuite sur l'écran. Ça coûte pas beaucoup plus cher, mais vous avez raison, il faut des idées. Cette année, il y a un film de science-fiction, Cargo, qui a fait 25 000 entrées en Suisse allemande, qui n'avait rien à envier à Star Trek ou à Alien. On y arrive aussi.
En termes d'entrée, d'ailleurs, Star Trek a fait à peine mieux, mais c'était vraiment
comparable. À peine mieux, ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle génération qui cherche à faire des films de genre, qui cherche aussi à avoir une valeur ajoutée technologique. Heureusement qu'on a ça, parce qu'effectivement, c'est l'avenir du cinéma suisse aussi.
Le cinéma suisse, cinéma étranger, est-ce qu'il faut vraiment faire une différence? Je sais pas qui autour de la table fait vraiment une différence en se disant, tiens, je vais voir un film parce qu'il est suisse aussi, Fabienne Despot.
Je n'irai pas forcément voir un film parce qu'il est suisse, mais j'apprécie la tournure que prend le cinéma suisse, je dirais, cette dernière décennie, parce qu'on avait l'impression que c'était en fait un réservoir à subventions où on se retrouvait dans un petit cénacle d'intellectuels qui n'avait finalement aucun intérêt pour le Pékin moyen.
Et cette là, image qu'à plus de 5000 entrées, c'est que c'était un film vulgaire.
Voilà, tout à fait. Tandis que là, on tombe pas dans la vulgarité, mais on se dit quand même que le Pékin moyen pourrait être intéressé par la culture suisse.
Donc vous dites le soutien à la culture, soutien au cinéma par des fonds publics, c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver, voire développer.
Il faut le préserver, mais il ne faut pas le préserver pour un petit cénacle. Il faut rendre les choses intéressantes pour que les citoyens moyens y trouvent son compte et son intérêt.
Pascal Pellegrino, film suisse, film étranger, vous faites une différence, vous
Non. En fait, moi, je ne vais pas regarder un film parce qu'il est réalisé. Enfin, la nationalité du film ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a un bon scénario, est-ce qu'il y a un bon film ou non.
Où j'étais
étonné, oui. C'est que je trouve, par exemple, par rapport à l'Angleterre, que le cinéma suisse, il y a eu pas mal d'idées extraordinaires en Angleterre, de petites comédies qui ne coûtent pas grand-chose et qui ont rapporté énormément. Je prenais l'exemple, bon, c'est assez vieux, mais de Full Monty,
par exemple.
Et ça, Full Monty, c'est typiquement un scénario qu'on aurait pu réaliser en Suisse.
C'est juste une bonne idée, c'est ça. C'est un peu l'idée aussi de Bienvenue chez les Ch'tis, où on voyait que le budget était, je ne sais plus combien de fois, inférieur à celui d'Astérix, qui sortait au même moment, qui était un flop.
Alors, juste une bonne idée, ça coûte très cher, hein. Encore une fois, juste une bonne idée.
Une idée,
ça a un coût, hein. Ce matin, on parlait du Scrébanquer a un coût. Une idée, ça a un coût. C'est-à-dire qu'une idée doit être développée, il y a un savoir-faire, c'est pas qu'une idée, il faut savoir écrire un scénario, il faut être capable d'accrocher un public sur une heure et demie. C'est pas juste une bonne idée qui tombe du ciel, c'est compliqué, on est un petit pays. Les bonnes idées, tout d'abord, on les trouve pas partout. Et ensuite, c'est un métier, le métier de scénariste et le métier de réalisateur. Cela dit, ce qui a tenait cette année la comédie de Julius Verschwinden, on est un peu dans une bonne idée, la question de l'âge, on est sur l'humour, ça fonctionne un petit peu comme ça. Sur le cinéma suisse, c'est vrai que sur la fiction, on peut se poser la question de savoir si le Stempel suisse s'impose facilement. Non, pas forcément. En documentaire, c'est autre chose.
Ça peut avoir un effet de rejet aussi.
En documentaire, il y a un véritable, lorsqu'on touche à des... Ah, vous avez raison, mais lorsqu'on touche à l'actualité suisse, la forteresse de Fernand Melgar, c'était un film suisse en tant que tel, et ça, c'est beaucoup plus facile à défendre en termes de suissitude.
Après, au top des entrées d'ailleurs, cette année aussi.
On top des entrées, c'est le meilleur doc cette année.
Ouais. Avec Home, qui n'est pas un doc, mais film roman, vraiment, Ursula Meyer.
Et Marcello de Denis Rabalia, qui était une vraie comédie, qui a fonctionné aussi. Mais il faut quand même que nos films s'inscrivent un petit peu dans notre terroir, il faut qu'on existe aussi en termes d'identité culturelle, même si on n'a pas que le secret bancaire pour se particulariser.
Avec créer des événements, hein, je reviens juste à cette notion de cinéma événementiel, Pascal Pellegrino, ça vous parle, vous ça, c'est-à-dire on va au cinéma parce qu'il y a de la 3D, parce qu'il y a une autre valeur ajoutée qui est repensée, qui est développée, c'est plus juste un acte banal, vraiment, je vais chercher un événement.
En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que on a changé d'époque. Moi, je regardais hier la première émission de Dominique Varluzel qui fait justement
avec Alain Delon.
Voilà, avec Alain Delon que j'apprécie beaucoup comme comédien, et je voyais Alain Delon face à ses propres films. Et à l'époque d'Alain Delon, on allait voir un film parce qu'il y avait Alain Delon dedans. Oui. Et aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Moi, je veux pas aller voir Avatar parce qu'il y a Sigourney Weaver. Oui. Je vais aller regarder parce que je veux voir cette espèce d'incroyable cinématographie où d'un coup, on part dans un autre monde. Et puis, je crois qu'on a changé. Il y a un cinéma d'avant, un cinéma d'après. Et puis, j'espère que les Suisses, comme vous le disiez avant Nicolas Bidot, qu'il y a un projet tout d'un coup en 3D, j'espère que les Suisses arriveront aussi à amener leur voix dans ce débat-là.
En tout cas, il n'est pas tout à fait d'accord, Nicolas.
Non, sur les acteurs, c'est vrai que moi aussi, je vais pas voir un film parce qu'il y a tel et tel, mais vous allez demander les jeunes, Twilight, il y a Pattinson, toutes les nanas, elles vont courir pour aller le voir. Je veux dire, je crois que le cinéma est quand même encore un truc qui fonctionne avec des aimants.
D'accord. Peut-être qu'en Suisse, il faudra peut-être chercher quelques aimants supplémentaires, quand même. On est toujours en quête de ça.
Ah, mais on fait que ça, camarade marketing.
D'accord. Mais qui a des noms, quelques noms de... Qui capte l'attention aujourd'hui en Suisse?
Qui capte l'attention? Ouais, c'est vrai qu'il faut encore les chercher.
Ouais. Bon, je voyais réagir, Solange Garnaoutier.
Oui, effectivement, je disais, l'événement vient parce que c'est un peu nouveau, mais quand ça va trop généraliser, ça sera plus un événement. Donc, il faut aussi faire attention à ça, au phénomène de mode et au phénomène émergent. Ouais.
C'est quoi, voit Avatar qui sort cette semaine, par exemple, qui crée, alors, véritablement, le film est conçu pour créer l'événement autour de lui. On se dit, alors, il y a une surenchère quand même, c'est la course à l'armement technologique dans le cinéma en ce moment.
Ouais, c'est vrai, mais sur Avatar, vous écoutez ce que disent les jeunes lorsqu'ils vont à l'école, ce que je fais le matin dans le train avec eux. Ils vont voir Avatar parce qu'il y a cette valeur ajoutée technologique, histoire...
C'est le Grand 8 sur la première, 8h18, les homosexuels sont des parents comme les autres. C'est ce qu'affirmait Nicole Lamond en signature tout à l'heure, juste avant 7h, dans le journal du matin. Une tendance, de plus en plus d'enfants grandissent, c'est un fait, avec deux mamans ou deux papas. Et pourtant, faut bien le dire, il y a que peu, voire pas, de protection particulière pour ces familles, pour les affaires de succession, de maladie ou de séparation, tout simplement. Pascal Pellegrino, je rappelle votre livre « Papa gay » aux éditions Favre. Vous y relatez l'expérience, au fond, que vous vivez aujourd'hui au quotidien de père homosexuel. Vous vivez avec votre fille, elle a 3 ans, et votre compagnon, est-ce que c'est un parcours difficile pour en arriver là?
Tout d'abord, je voulais juste dire une chose, parce qu'on fait toujours cette erreur de dire que c'est des familles avec deux papas et deux mamans. Moi, je ne vis pas dans une famille avec deux papas et deux mamans. Il y a un papa, une maman, ça c'est très clair. Et puis ensuite, le compagnon et la compagne éventuelle donc des parents sont des gens qui participent en tant que, je dirais, à l'autorité parentale. C'est vrai que on ne peut pas nier l'influence qu'ils ont sur notre enfant, mais ils ne sont pas un deuxième papa ou une deuxième maman. Je trouve que psychologiquement pour un enfant, c'est absolument destructeur. Il sait plus qui est le père. Tout d'un coup, il y aurait un bon père, un mauvais père. Tout d'un coup, ce que je peux me permettre avec l'un des papas, je peux pas me permettre avec l'autre. Donc c'est impossible. C'est juste impossible.
C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire déjà d'emblée qu'il y a évidemment 1000 questions qui se posent, qui sont souvent extrêmement basiques, mais notamment évidemment question qui revient extrêmement souvent, j'imagine, c'est le regard des autres sur votre enfant, votre fille à l'école par exemple. Bon, elle y est pas encore.
Elle y est pas encore.
mais le regard des autres.
Non,
par
mais par
exemple.
Contre, ce que je peux vous dire, c'est que on l'a mise dans une garderie parce que on a un enfant et puis on avait envie qu'elle soit socialisée, qu'elle rencontre d'autres enfants. Et puis quand on est arrivé dans la garderie, on a expliqué notre situation à la directrice et j'ai vu en elle, je dirais, une certaine méfiance. C'était mon ressenti, quoi. Ouais. Et puis 2 ans après, la même directrice est venue vers moi. Puis elle m'a dit, mais votre fille c'est extraordinaire, elle s'épanouit, elle est heureuse. Enfin, elle vit super bien, elle est souriante. Donc ça marche. Mmh. Donc si vous voulez, les peurs qu'on a par rapport à l'homoparentalité, ce livre était là pour ça, c'était pour essayer de faire entendre aux gens un discours qui est sur une réalité que je vis au quotidien. Et mon enfant, ça se passe très bien avec elle, il y a aucun problème. Donc en tout cas, il n'y a pas de problème spécifique à l'homosexualité du papa et de la maman.
Et puis,
justement, c'est ça aussi. L'autre problème, c'est que vous venez de le dire en me présentant, je suis un père homosexuel. Non, je suis pas un père homosexuel. Je suis un père. Un point. Ça s'arrête là. Mon homosexualité, si vous voulez, elle ne concerne, je sais pas moi, que 5% de ma personnalité. Mais tout le reste, quand je change les couches de ma fille...
C'est pas ça qui vous définit. C'est ça que vous dites.
L'homosexualité n'a rien à voir quand je change les couches de ma fille. Et puis le problème qu'on a, justement, c'est qu'on résume les homos à leur seule préférence sexuelle. Parce que je suis homo, on a peur que je sois un mauvais père. Mais si l'hétérosexualité était le seul critère pour être un bon parent, ben ça se saurait. Et moi, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que là, je veux pas emmener le débat dans des considérations qui sont trop angoissante, mais je voyais l'autre jour cette horrible histoire de cet enfant qui était battu par des parents, qui a ensuite été enterré, Tiffaine, je crois qu'elle s'appelait. Jamais des gens se sont inquiétés du destin de cet enfant parce que ses parents étaient hétérosexuels. Si ses parents avaient été homosexuels, tout d'un coup on leur a dit mais attention, mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Ce que je veux dire par là, c'est que l'homosexualité ne doit pas être la raison.
C'est pas ça qui définit au fond une parentalité, c'est pas ça qui définit une famille. Alors pourquoi ne pas aller plus loin et prévoir, Fabienne Despot, je me tourne vers vous, prévoir peut-être un élargissement du cadre légal, notamment via le PACS, qui ne prévoit pas, qui ne permet pas aujourd'hui l'adoption d'enfants pour des couples PACSés. Pourquoi pas, par exemple, permettre ça simplement pour faciliter un peu les choses en cas de séparation, de succession. On peut imaginer 10 000 exemples.
Oui, il y a une différence entre le cadre légal et la pratique. Effectivement, que la légalité cherche à montrer le chemin idéal pour une famille. Une famille peut avoir des difficultés plus importantes avec une famille normale, hétérosexuelle, qu'avec une famille multi-recomposée, avec une famille homosexuelle ou autre. Ça peut avoir des influences différentes avec un enfant. Mais l'idéal étant qu'un enfant doit avoir quand même deux opinions. Et je suis très contente d'entendre monsieur dire que finalement son enfant a un père et une mère. Ça veut dire qu'il a cet équilibre avec la mère qui est en dehors du foyer dans lequel l'enfant vit. Mais il y a quand même cet équilibre qui est essentiel et donc, qui est conservé.
Donc la parentalité, vous y croyez telle qu'elle est expliquée dans le livre de Pascal Pellegrino?
Je dis qu'elle est un cas qui existe, mais finalement c'est un cas assez marginal et je m'étonne qu'on s'y accroche autant parce que le nombre d'enfants qui est adopté est finalement pas très important et le nombre d'enfants qui se trouvent dans une situation avec des parents homosexuels l'est encore moins. Donc je m'étonne qu'on veuille faire un cadre légal pour une situation finalement extrêmement marginale.
Mais vous dites quand même, Pascal Pellegrino, aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait pour ces couples-là.
Il y a juste une chose, j'ai le partenariat enregistré là sous les yeux, et puis dans l'article 27 sur l'enfant du partenaire, il est dit juste une chose, c'est que lorsque l'un des partenaires a un enfant, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien. Mmh. C'est-à-dire que on reconnaît au partenaire du papa on lui reconnaît un rôle parental, mais en même temps, dans le deuxième point de ce partenariat, on dit en cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l'autorité tutélaire le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. C'est-à-dire que si demain que je me sépare de mon copain, on est conscient, le législateur est conscient des relations qui ont pu se tisser entre mon enfant et mon partenaire, et donc protège ces relations-là et la relation que mon partenaire a pu avoir avec mon enfant. Et donc, mais en même temps, on ne lui reconnaît pas un rôle de parent. Donc il y a quelque chose d'un petit peu particulier qui mériterait, à mon avis, qu'on précise cette législation.
Donc vous êtes d'accord ou pas avec cette affirmation, les homosexuels sont des parents comme les autres, c'est ce que vous dites ou pas
mais
vraiment?
Oui. Mais moi je ne suis pas un homosexuel, je suis un homme. Ouais. Je suis un homme et pour moi, encore une fois, l'homosexualité n'est qu'une petite partie de ma personnalité.
Fabienne Despot.
Mais j'observe quand même une contradiction dans ce que dit monsieur, puisqu'il a bien précisé au départ que son enfant n'avait pas deux papas, mais qu'il avait un père, une mère qui est en dehors du foyer, et puis un ami qui a une certaine responsabilité, puisque c'est normal, puisqu'il est en contact avec l'enfant. Donc on se retrouve dans une situation tout à fait différente qu'un couple dont les parents sont ensemble et qui se séparent.
Alors moi j'ai envie de dire effectivement c'est pas parce que le nombre de cas est peu nombreux qu'il faut rien faire déjà d'une part et puis c'est vrai que nous sommes tous différents et tous pareils à la fois, alors pourquoi ne pas avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs vis-à-vis de l'éducation des enfants, enfin il faut protéger les enfants, la famille, quelle que soit la forme de la famille, et moi je fais pas de différence entre quelqu'un qui a une sexualité XYZ, après tout moi ça me regarde pas. Ce qui nous intéresse nous en termes de société, c'est les relations établies entre chaque membre de cette société, et il faut protéger effectivement des liens qui ont pu se tisser tisser au cours d'une vie commune. Et pourquoi faire une différence avec des pères qui ne sont pas biologiques?
L'idée d'abolir toute différence au fond entre entre les différentes natures qu'il peut y avoir dans un couple et leur composition, on ne plus faire juste ne considérer aucune différence entre ça. Vous êtes d'accord avec cette vision, Fabienne Despot?
La nature est opposée à cette vision dans la mesure où un couple qui se forme a en général pour but logique comme suite logique de faire des enfants. Et je suis quand même assez étonnée de voir cette volonté des homosexuels de vouloir arriver à une situation où ils en viendraient à finalement créer un enfant d'une manière évidemment surnaturelle, puisque la nature ne le permet pas. À mon avis, j'ai l'impression, quand je vois ces couples qui insistent pour avoir des enfants, qu'on se retrouve face à des hétérosexuels frustrés.
Pascal Pellegrino.
Ah ben, je suis heureux de l'apprendre. Non, mais... C'est toujours l'erreur qu'on fait, c'est de se dire que les homosexuels veulent être comme tout le monde, veulent avoir des enfants, veulent se marier et tout et tout. C'est que on résume encore une fois toujours ces gens-là à leur seule sexualité. Moi, je suis un papa. Vous savez, quand j'ai tenu pour la première fois mon bébé dans les bras, je me suis pas dit.
Mais t'es un papa point barre, quoi.
Non, mais surtout, je me suis pas dit extraordinaire, t'as gagné, t'es homosexuel, t'as un enfant. Jamais je me suis dit ça. J'étais conscient ce jour-là de la dose énorme d'amour que tout d'un coup on reçoit quand un enfant naît, et puis aussi la dose de responsabilité impressionnante devant laquelle on efface, quoi. Et moi, je vais reprendre un message de votre conseiller fédéral du DC, Uli Maurer, qui disait à propos de la famille traditionnelle, dont on va parler, je crois, tout de suite.
Dans un instant, oui, bien sûr.
C'est qu'il disait, les enfants ont besoin d'amour et de la chaleur d'un foyer familial. Oui. Eh bien, c'est exactement ce qu'on donne à notre fille. Alors, le foyer familial, il est séparé en deux foyers, si vous voulez, puisqu'il y a deux maisons.
D'accord, il n'y a aucune différence au fond à faire, c'est ce voilà. Que vous dites. C'est le foyer familial avant
formé,
tout, ensuite, bon, la composition.
On a formé une famille, oui. Cette famille, elle existe, et puis cette famille, elle est forte, et surtout, elle est basée sur l'amour.
Alors, pourquoi faire encore une différence, Fabienne Despot? Ensuite, on passera effectivement à l'autre sujet, mais aucune différence alors à faire, hein. Finalement, une famille, c'est une famille avant tout, quelle que soit la composition du couple qui la forme. Fabienne Despot.
Et surtout, il y a cet aspect d'amour qui est important.
Juste pour dire, effectivement, les homos ne sont pas stériles. Ils ont ces désirs de maternité, de paternité. Et heureusement, et tant mieux. Et comme vous l'avez dit, l'amour, c'est avant tout le centre de la question de l'éducation des enfants.
Et à propos de famille, donc, je vous remercie, hein, Pascal Pellegrino, pour ce témoignage également dans ce Grand 8. Et à propos de famille, il y a une autre tendance, c'est l'affirmation du statut des femmes qui restent à la maison pour s'occuper des enfants. Tout simplement, à travers des blogs, hein, et des prises de position assez fortes en ce moment, des voix qui émergent pour affirmer ce statut. Et puis il y a l'UDC qui voudrait que les parents qui gardent leurs enfants eux-mêmes bénéficient aussi de déductions fiscales. Fabienne Despot, est-ce qu'on a ces dernières années négligé au fond ces couples qui font le choix de laisser un des parents, l'homme ou la femme, à la maison?
Bien sûr, parce que toute la tendance politique, je dirais depuis les années 70, a été de pousser la maman, la femme, hors de la maison, en considérant qu'elle était l'égale de l'homme et puis qu'elle n'avait pas besoin d'y rester. Maintenant, il faut se demander pourquoi il y a cette résurgence des mères au foyer, pourquoi il y a de plus en plus de femmes qui ont envie de reprendre ce rôle, ou bien finalement de pères qui veulent aussi rester à la maison. L'un n'exclut pas l'autre. Alors ça peut être dû à deux choses. Ça peut être dû au fait qu'on revient à une répartition traditionnelle des tâches, et puis elle est effectivement encouragée par certaines actions, dont celle de l'UDC, mais pas forcément avec des blogs, avec des réactions diverses. Puis ça peut être aussi simplement une difficulté à trouver des places de travail sur le marché. On se retrouve dans un marché du travail de plus en plus dur. Et la femme se rend compte que finalement, pour un apport financier qui n'est pas forcément très très important, elle va se créer une vie impossible à courir entre la crèche et le bureau, et que faisant ses comptes, elle trouvera plus simple de rester à la maison.
D'accord, financièrement, c'est que la question est quand même parfois cruelle. Pour que l'un des parents, Solange Garnaouti, puisse rester à la maison, il faut quand même qu'il y ait un revenu suffisant.
Enfin, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, on fait ça pour que les femmes ne piquent pas le boulot des hommes. Donc ça, moi, ça me choque profondément en tant que présidente de la commission égalité des chances de l'université de Lausanne.
Oui.
Moi, j'ai envie de dire, poussons la logique à l'extrême, payons les familles pour qu'elles n'envoient pas les filles à l'école.
Poussons les familles pour qu'elles n'envoient pas leurs filles à l'école directement. Non, mais bon, ça c'est
juste
pour la réflexion.
Non,
cela dit, attendez, c'est vrai, aujourd'hui, il y a cette question-là. Beaucoup de femmes se forment, se font des études supérieures et finalement pourraient être tentées de renoncer à une vie professionnelle. On parle là de la majorité, en l'occurrence, ce sont des femmes. Là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut, selon le garanti, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire?
Moi, je crois effectivement, c'est absolument difficile de travailler et de s'occuper d'un foyer, des enfants, du fait essentiellement du manque de structure. Pour s'en convaincre, il faut regarder les horaires d'école, le fait qu'il n'y ait pas de cantine le midi, enfin, c'est juste galère. Donc, on peut penser que certaines préféreront une solution plus de facilité au détriment, effectivement, de pouvoir exercer une activité professionnelle gratifiante. Et en revanche, moi, je suis quand même complètement favorable à la valorisation des tâches domestiques, qu'elles soient faites par un homme ou par une femme, et pour toutes ces tâches invisibles, non gratifiantes, que font généralement les femmes, parce qu'elles n'ont plus que ça à faire, parce qu'on leur laisse pas d'autre choix, qui sont réalisées au quotidien.
Nicolas Bidot, ensuite, je vous fais réagir naturellement.
Ouais, je pense qu'il y a un peu de démagogie à dire que depuis 20 ans, on pousse les femmes à sortir de la maison et travailler. C'est vrai, mais en même temps, lorsqu'on voit qu'il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de structure, elles peuvent pas sortir. Tout simplement, elles n'ont pas le choix. Absolument. Donc, je pense que, au lieu d'économiser des millions de francs via des déductions fiscales, plutôt investissons davantage pour avoir effectivement des structures. Ce qui fait qu'après, on peut se poser la question très véritablement, on est en mesure de se dire, ok, je renonce, mais je pourrais le faire, mais je renonce. Et à partir de là, à ce moment-là, lorsqu'on a véritablement cette possibilité pour chacun de choisir s'il veut travailler ou pas, à ce moment-là, valoriser le travail à la maison, c'est correct. Mais mettons pas la charrue avant les bœufs. D'abord, laissons à tout le monde, père ou mère, le choix de dire, je travaille pas, en fonction des infrastructures qui peuvent s'occuper des enfants.
Donc commençons, Fabienne Despotes, par encourager les mesures d'encadrement, les horaires continus, les cantines, les crèches le soir, etc. Commençons par proposer un vrai choix au fond, c'est ce que nous dit Nicolas.
Alors, le vrai choix, on peut le proposer de deux manières. Effectivement, en apportant des moyens, ça c'est toujours la manière de la gauche, ou en permettant de déduire des impôts, c'est la manière de la droite. Évidemment, ouais, que l'UDC est plutôt un parti de droite, il a proposé d'encourager des déductions fiscales des familles à la maison parce qu'elles sont défavorisées par rapport au système actuel fiscal. Donc simplement mettre les choses à égalité. Mais ça c'est l'aspect moyen. Il n'y a pas que ça. Il faut dire qu'il y a l'aspect de l'état d'esprit. Il faut bien se rendre compte que la génération de 68, elle est en train de partir à la retraite, qu'elle nous a imposé des utopies pendant 30 ans.